Vous vous attendez, bien sûr, à ce que je vous entretienne du baptême des petits-enfants comme moteur de réveil et de renouveau dans l'histoire de l'Église. Mais vous allez être déçus parce que ce n'est pas mon sujet très direct. Néanmoins, j'aurai une introduction, puis trois parties. Oser déchiffrer le visage du Christ dans l'histoire. Essayer de le discerner sous le visage humain, parfois trop humain, de l'Église est une entreprise délicate, pour ne pas dire franchement périlleuse. Certes, l'image du Christ affleure partout dans la trame humaine. Pourtant, il ne faut pas faire de l'histoire de l'Église une nouvelle révélation, comme si le temps n'avait pas été sauvé une fois pour toutes par le Christ. Un autre évangile que celui du Christ n'est pas à attendre dans l'histoire. Le théologien historien ne peut pas faire de l'histoire providentialiste, laquelle pense savoir mieux que l'Esprit Saint ce qui se passe, comme l'a fait par exemple le providentialisme du mystique italien Joachim de Flore, mort en 1202, et comme le fait aujourd'hui la prétendue théologie de la libération. Soyons clairs, l'histoire n'est ni le moteur du salut, ni l'écriture à travers les âges d'un cinquième évangile. Si la grammaire de l'histoire est difficile, elle révèle pourtant la continuité du dessein de Dieu à travers la faiblesse des hommes. Nous sommes les héritiers de tout ce patrimoine où s'inscrit le mystère de l'Église. Une Église d'abord partagée entre Dieu et César, puis entre l'humble annonce de l'Évangile et tous les triomphalismes arrogants, entre la fidélité à la parole de Dieu et tous les humanismes. L'Église est faite de chair, mais aussi de terre. Elle est surchargée de scories, d'excroissances, de toutes sortes d'apports qui font souvent, trois fois hélas, écran à la nudité pénétrante de l'Évangile. L'Église est une réalité paradoxale. Son histoire est faite du meilleur et du pire. Elle est tissée, oserais-je dire, baptisée, et de toutes sortes d'influences. Mais aussi, elle est baptisée d'un baptême qui est un baptême peu commun, c'est celui du sang des martyrs. Mais la boue qui s'agglutine à l'Église visible, et il y a de la boue, cette boue est quelquefois si dense que l'Église cache l'Évangile. C'est bien pourquoi l'aspiration au renouveau est constante dans la vie de l'Église. L'idée de réforme, de réveil, de réformation, de renouveau, se manifeste comme un besoin vital. Le besoin de réformation est une réalité vivante. L'Église ne vit qu'en se réformant. Elle est, selon l'adage classique, Ecclesia semper reformanda. Elle doit toujours se réformer elle-même. Pourtant, elle n'est pas une chaîne sans discontinuité de perpétuelle réforme. Il y a des époques plus singulièrement fécondes. Le renouveau est comme une nappe souterraine qui connaît ici et là des résurgences. Il y a, me semble-t-il, deux conceptions de la notion de renouveau, de réveil, de réformation dans l'histoire de l'Église. Et un courant m'apparaît précédant l'autre. Mais bien sûr, ils sont l'un et l'autre en relation, et comme vous le remarquerez, ils peuvent s'entrecroiser. Il y a d'abord l'action réformatrice sur soi-même. C'est une recherche ardente d'intériorité sous la forme d'une spiritualité théocentrique visant à une rénovation intérieure, à une rénovation de soi-même. C'est ici la réforme par le moyen de la spiritualité. Et puis, il y a une autre conception de la notion de renouveau, c'est la réforme des institutions ou de l'institution de l'Église. L'accent n'est plus là surtout individuel, mais c'est le renouvellement de l'Église, alors quel que soit évidemment le mode d'ecclésiologie que l'on peut avoir, soit le renouvellement de l'Église locale, soit le renouvellement, ça dépend de l'organisation de l'Église, de l'institution, s'il y a d'autres degrés. Ici, dans le second point, c'est la rénovation des institutions. La rénovation intérieure et la rénovation des institutions sont bien sûr liées. L'action réformatrice qui s'exerce sur soi-même peut avoir pour fruit un travail de réforme institutionnelle très approfondi. Très simplement, je dirais, une fois que l'on est réformé, on réforme. Inversement, les forces qui travaillent l'Église pour la changer peuvent entraîner le retour à l'intériorité dans la mesure où l'œuvre de l'Église, disons, c'est une manière de voir les choses et précisément de réformer les hommes. Ainsi donc, 2000 ans d'histoire de l'Église se répartissent schématiquement, bien entendu, du point de vue du renouveau, en deux périodes correspondant à deux conceptions. Jusqu'à l'an 1000, j'ai un peu honte de dire ça aussi nettement, hein, jusqu'à l'an 1000, on compte sur une réforme personnelle. Ensuite, on va davantage parler de réforme des institutions. Et je veux essayer maintenant, avec tous les risques inhérents à ce sport, de vous brosser en une fresque, en deux parties, le panorama de l'œuvre de Dieu à travers l'histoire depuis le commencement. Comme vous le remarquerez, je ferai très attention de ne pas m'avancer trop avant dans la modernité, pour ne pas m'aventurer sur quelques terrains un peu délicats. Alors, il y aura donc d'abord deux parties. D'abord, bien entendu, le renouveau de l'intériorité. Deuxième partie, le renouveau des institutions. C'est les deux axes de réflexion que je vous propose. Et j'aurai ensuite une troisième partie, c'est essayer d'analyser quelles pourraient être les conditions du renouveau. Première partie, le renouveau de l'intériorité. C'est le courant qui vient avant l'autre, me semble-t-il. Alors voilà la fresque qui commence. Le christianisme naît et se développe dans le bassin méditerranéen, au sein du très puissant empire romain, favorisé par un certain nombre d'éléments, de vecteurs, en particulier l'emploi de la langue grecque, la croissance de l'Église, oserais-je prononcer ce mot, est rapide au cours du premier siècle. Mais il ne faut pas exalter mythiquement l'histoire de l'Église primitive. Évidemment, lorsque je parle de l'Église primitive, je ne parle pas de l'Église du Nouveau Testament, mais je parle de l'Église immédiatement après, hein, c'est-à-dire de l'Église post-apostolique. La proximité de l'Église primitive, la proximité dans le temps du Christ incarné, centre de l'histoire, ne fait pas de cette Église primitive, de cette Ecclesia primitiva, un modèle directement imitable. C'est pas parce qu'on est proche du Christ dans le temps qu'on est forcément plus fidèle, et inversement. La pesanteur de l'Église n'est pas forcément proportionnelle à la durée de son installation dans l'histoire. Il ne faut pas que nous allions trop fort dans ce mythe qui est quelquefois présent chez les réformateurs, chez certains réformateurs en certaines pages du XVIe siècle, qui ont vu parfois trop idéalement l'histoire des, que faut-il dire, 2, 3, 4 ou 5 premiers siècles de l'Église, comme si il y avait eu quelques siècles glorieux et puis comme si on... L'Église avait sombré définitivement dans une nuit profonde. Les choses ne sont pas à couper si nettement au couteau, me semble-t-il. Pendant la période patristique, par là on veut dire des pères de l'Église, l'idée de réformation est une réalité centrale de la vie chrétienne. La rédemption est vue comme une réformation. Et vous avez, en paysage patristique, ce thème de l'homme créé à l'image de Dieu et qui est appelé à la ressemblance. L'homme créé à l'image de Dieu est appelé à la ressemblance. Et c'est un des thèmes traditionnels de l'anthropologie, de la doctrine de l'homme patristique. Pour eux, il y a un retour à Dieu qui est une sorte de réformation. Il y a donc cette idée de retour à la ressemblance. Il s'agit d'acquérir la ressemblance selon un processus de conformation progressive au Christ. Et les pères du IVe siècle vont développer ces thèmes, notamment les Cappadociens surtout, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice et Basile de Césarée, dont évidemment Bernard Borde devrait être le spécialiste. Alors, vous avez donc ce thème de réforme individuelle, de renouveau de l'intériorité autour de la notion d'homme créé à l'image et qui veut revenir à la ressemblance. En Occident, ce thème du retour à Dieu, très développé dans l'Orient ancien, ce Dieu dont tout homme porte indélébilement l'image, ce thème n'est pas laissé de côté par la chrétienté latine. Ce thème est repris par saint Augustin. Pour saint Augustin, par exemple, l'image de Dieu en l'homme n'est pas statique, elle a une histoire qui est celle de la vie spirituelle, qui est celle de son amour. Et à la suite du péché originel, l'image de Dieu a été déformée, défigurée, sans être jamais complètement détruite. Cette image retrouve peu à peu sa plénitude, se réformant chaque jour par la médiation du Christ jusqu'à la perfection dans la béatitude. Il faut retrouver la véritable ressemblance avec cette image de Dieu qu'est Jésus-Christ. Il y a un lien entre conversion, imitation et réformation dans la pensée augustinienne. Au total, je ne peux pas entrer dans les détails qui nous embarqueraient dans des circuits assez difficiles jusqu'à la philosophie. Au total, il y a un enracinement profond de l'idée de renouveau dans la théologie patristique. Et cet axe fondamental va comme se doubler après la période des pères au sens large, puisque je vais jusqu'à l'an 1000, avec un désir de réformation de structure, d'où la deuxième partie, le renouveau des institutions. Il ne faut pas noircir ce que l'on appelle le Moyen Âge. Je lutte contre cela du matin au soir dans mes cours. Il ne faut pas ramener 1000 ans d'histoire de l'Église à une période monocolorement sombre. Ce serait une erreur. Le Moyen-Âge est autre chose que les pères de l'Église, c'est autre chose que la Renaissance, et c'est une époque qui a ses faiblesses, certes, mais aussi ses forces et ses lumières, et qu'il y a ses bas, mais aussi ses hauts. Mais c'est vrai que le Xe siècle fait peur dans l'histoire de l'Église. C'est une période sombre. Il faut avoir, j'allais dire, la foi pour s'aventurer dans le Xe siècle chrétien. Vous avez là des désordres dans toute l'Église, y compris dans la papauté, puisque nous plongeons dans le Xe siècle dans une, comment dire, dans une pornocratie papale tout à fait ahurissante. J'ai préparé la semaine dernière des cours là-dessus pour mes étudiants. Et puis, en les relisant, je me demande si j'oserais traiter de ces scandales de la papauté du Xe siècle. À partir du XIe siècle, l'Église est en proie à de longues recherches, à des crises. Elle aspire à une réformation à la fois de la tête, de sa hiérarchie, mais aussi de ses membres, c'est-à-dire du corps. Ce n'est pas un langage que je plaque, c'est le langage du temps. On demande de tous côtés une réformation de la tête et du corps. Voilà. Et c'est le renouvellement, le désir du renouvellement des institutions, et non plus ici le renouvellement de l'homme individuel ou personnel. L'Église s'engage dans un travail communautaire qui va englober toutes les formes d'être ensemble et de penser d'alors. Vous avez le prodigieux mouvement de démultiplication et de diversification, surtout, chose sans doute étrange pour nous, surtout au niveau des monastères. Vous avez Cluny qui va illuminer de sa lumière réformatrice toute l'Europe occidentale. Et, par exemple, au début du XIIe siècle, l'ordre de Cluny représente 1200 maisons en France. Après Cluny, vous aurez un autre réveil institutionnel qui est Cîteaux, en 1075. Ensuite, vous aurez des réactions érémitiques, c'est-à-dire des réactions un peu d'ermites, avec les ordres de Gramont, de Frontrevrault, etc., puis les chanoines prémontrés, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se créent dans l'Église. Lorsque je vous raconte des choses comme ça, je ne dis pas forcément que ce sont des bonnes choses, etc. Je raconte ce qui se passe. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se créent, et puis vous avez, à la fin, ça continue, vous avez la naissance des ordres mendiants, avec les dominicains, les franciscains, les prêcheurs qui vont essayer de s'appliquer à une prédication mendiante, itinérante, et qui vont essayer de relancer la foi des chrétiens. Et on va assister à un véritable quadrillage de la chrétienté par un réseau de monastères qui va être aussi serré, presque aussi serré que celui des paroisses. Vous voyez, on en arrive à avoir au fond deux systèmes. Vous avez toutes les églises locales des paroisses, mais vous avez aussi tous ces monastères qui quadrillent le paysage d'alors. Vous avez aussi, dans ce désir de réforme, des conciles. On va vouloir, dans les synodes et les conciles, changer les choses. Et il y a des plaintes lancinantes, des demandes de réforme. Au concile de Latran de 1123, c'est au programme, hein, 1123, hein, au programme du synode, il y a la réformation de l'Église dans la tête et dans les membres. Et on veut retrouver ce que l'on appelle la véritable forme de la foi chrétienne. On veut retrouver la foi chrétienne apostolique. C'est cela que l'on veut à ce synode. Vous avez aussi les grandes crises qui secouent le christianisme. Par exemple, évidemment, le grand schisme de l'unité de l'Église de 1054 entre l'Occident et l'Orient. Vous aurez le catharisme médiéval, une religion, disons-le avec netteté, fondamentalement autre que le christianisme, mais qui saura prendre un vêtement, si je puis dire, chrétien. D'où la confusion. Certains parmi le peuple vont pas forcément distinguer, parmi les peuples du Languedoc, qu'un cathare, ce n'est pas un chrétien, parce que le catharisme va singer, j'allais dire, le christianisme en Occident. Autre drame, vous avez le séjour de la papauté en Avignon, et vous avez tout ce problème qui va naître entre plusieurs papes rivaux, et avec chaque fois, à l'intérieur de chaque église même, et à l'intérieur des monastères, vous allez avoir des gens qui vont plutôt suivre tel pape ou tel antipape, c'est pas à nous de nous prononcer, plutôt que tel autre. Et vous avez aussi un conflit entre le papalisme et le conciliarisme. C'est-à-dire, la question est celle-ci, ultimement dans l'Église, qui commande ? Est-ce que c'est le pape ? Ou est-ce que c'est le concile? Voilà un grand problème de l'époque. Voyez, ce qui domine dans le second millénaire de l'histoire, c'est l'appel à une réforme de structure, il me semble. Il y a tout de même une recherche ardente d'intériorité. Par exemple, au XIIe, au XIIIe, au XIVe siècle, un désir de rénovation intérieure qui va se retrouver dans des mouvements aussi divers et pluralistes que la mystique rhénane, les amis de Dieu, la dévotion moderna, et vous retrouvez des accents de ceci dans le livre, par exemple, de l'Imitation de Jésus-Christ. Et vous avez toutes sortes de mouvements qui aspirent à un renouvellement de la vie intérieure. Ainsi, autour de cette idée de renouveau, j'aimais l'hypothèse suivante, c'est que pendant le premier millénaire, on veut se rénover soi-même, et par là peut-être des institutions, tandis que dans le second millénaire, on veut réformer les structures. Et en réformant les structures, on espère se réformer soi-même. Après ce parcours, que j'arrête intentionnellement à la réforme, parce que vous connaissez la réforme et la suite, je passe à la troisième partie de cette communication, les conditions de renouveau. Quelles sont les facteurs de renouveau. Y a-t-il des facteurs de renouveau? Y a-t-il des principes ayant déclenché des réveils, des réformes dans l'histoire de l'Église? Quels sont ces principes? Est-ce qu'on peut les cerner? Évidemment, lorsque l'on parle de réveil, de réforme, de réformation, il y a un cadre à placer, bien entendu. C'est celui de l'action souveraine de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit, évidemment dans les bons réveils et dans les bons renouveaux, et qui a le rôle capital dans l'histoire de l'Église. Cette action du Saint-Esprit sera sous-jacente à tout notre propos. On ne peut pas programmer un réveil comme on remonte son réveil au matin. Il y a réveil où Dieu le veut, quand Dieu le veut, avec les moyens que Dieu veut. Mais inclus dans cette action gracieuse de Dieu, il y a ce qui va être la réponse de l'homme ou du croyant. Et c'est le rapport dynamique, vivant, de ce Dieu qui suscite dans sa grâce la réponse active des croyants dans leur cadre de vie. Évidemment, ici, la tâche, comme nous le suggérions en commençant, de l'historien de l'Église est difficile. C'est très difficile d'analyser l'histoire de l'Église. Le théologien historien, l'historien croyant, se situe comme un croisement, j'allais dire crucifiant, du temps, le temps profane, le temps tout bêtement horizontal, et l'éternité verticale. J'ai horreur des schémas. Lorsqu'il y a des schémas au tableau, je dis à Aix que c'est Wells, toujours. Mais ça donnerait quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Vous avez le temps horizontal. On va finir par faire des schémas, vous verrez. Alors ensuite, il y aura là le temps vertical. Et le pauvre historien théologien, il est là. Il y a un dilemme ici pour lui, entre le temps horizontal et le temps vertical. Alors c'est ça l'embêtant des schémas, hein. Pourquoi il y a la flèche ici et pas là? Vous voyez, j'ai toujours été... quand quelqu'un me parle, quand il fait des schémas, moi, j'y comprends encore moins. Hein, mais voilà. Mais enfin, peut-être vous comprendrez quelque chose. On verra. Alors, ce dilemme provoqué par la réalité du temps et par le royaume de Dieu, le temps vertical, forme, j'allais dire, un problème en forme de croix. Et vous avez le petit historien qui est là, qui a un petit sentiment de vertige. Autrement dit, techniquement, il a le lézard dans le dos, vous voyez. On sent là quelque chose, et c'est le vertige, vous voyez. C'est comme quand j'ai été pasteur pendant un mois dans le Valais, en Suisse, au Mayence de l'Ours. Même le chalet dans lequel j'étais était comme ça. On pente, etc. On n'y voit plus clair au bout d'un mois. Alors, voilà. Alors, vous avez là le sentiment de vertige, ce lézard dans le dos de l'historien théologien qui étudie l'histoire de l'Église. Et ce sentiment n'est pas propre à l'historien de l'Église seulement. C'est un peu exagéré chez lui. Mais déjà, évidemment, sans se référer à Dieu, sans le formuler métaphysiquement, l'historien tout court, l'historien l'historien tout court, se sent tout petit, même s'il était de fortune grand. En ce sens, qu'il se dit, qui suis-je face à l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé? Il a conscience que ce qu'il peut dire du passé, ce n'est que ce qui surnage de la nuit la plus profonde. Même l'historien de réunion tout court a conscience qu'il fait face à une tapisserie non encore achevée. Tout ce dont on parle n'est pas le tout, c'est pas terminé ce temps horizontal, c'est un fragment. Mais le théologien historien conduit à considérer l'histoire comme mystère du temps à cause de cette tension. J'allais cracher le mot eschatologique, voyez, qui est programmé de toute façon dans le Nouveau Testament, entre l'événement indubitable, historique du déjà arrivé et le pas encore de l'Église. Parce que nous ne savons pas comment les choses vont se terminer. J'entends pour les églises locales, les associations, les étiquettes des bocaux, comment ça va se terminer tout ça, l'historien ne le sait pas. L'historien croyant est au cœur du dilemme crucifiant en forme de croix, entre l'histoire de l'Église déterminée, l'Église dans son pèlerinage, dans l'histoire des hommes, à travers le temps profane, et l'histoire du royaume, dont la croissance est invisible et qui relève de l'éternité. La relation entre l'histoire de l'Église institutionnelle et ce royaume ne se laisse pas observer. C'est normal, et tant mieux. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne se laisse pas embrigader, enfermer dans les catégories de l'histoire. Bien entendu, le théologien historien peut faire différentes sortes de discours, et comme vous l'aurez remarqué, il ne s'en privera pas. Il peut relater les faits, les gestes, les écrits des conciles, des réformateurs, des hommes du réveil. Il peut enregistrer les phénomènes collectifs, populaires. Il peut faire de l'histoire hagiographique, celle qui raconte la vie des grands personnages. Exemple, Spurgeon. Et voilà. Alors, il peut faire de l'histoire théologique, il peut faire toutes sortes de choses. Mais j'attire votre attention, mesdames, messieurs. Que peut-il dire, l'historien théologien qui est là, de la conformité du Christ de chaque croyant, la conformité au Christ de chaque croyant, c'est ça qui serait le plus passionnant dans l'histoire. Que peut-il dire, ces petits historiens, du travail secret de la grâce à travers les cœurs de ceux qui nous ont précédés et qui constituent le peuple de Dieu? Si encore on ne se heurtait qu'au péché, j'oserais dire, si vous voulez, comme historien, nous aimons le péché, parce que le péché, ça se voit, mais la grâce. Allez voir l'histoire de la grâce dans l'histoire de l'Église. Allez voir la sanctification. Vous voyez, le péché, c'est ce qui se dévoile. Mais il y a la sanctification, ce mystère qui n'est pas décelable, ce droit de Dieu de sonder les reins et les cœurs qui ne se laissent pas du tout observer. Ainsi, comme on l'aura remarqué, l'historien croyant qui se penche sur l'histoire de l'Église rencontre, comme l'historien tout court, le problème de l'histoire des silences, le problème de l'histoire qui n'est pas encore achevée. Mais il est appelé à un effort supplémentaire dont il ne peut rendre compte qu'en termes de mystère. L'historien théologien devra essayer de détecter les affleurements, les traces du spirituel à chaque pas de l'histoire du peuple de Dieu qu'il étudie. Il devra faire émerger l'histoire en creux, l'histoire de la foi, en prenant toutefois garde que l'histoire spirituelle ne contredise pas l'histoire des documents. C'est tout le problème, comme en exégèse, de l'interprétation spirituelle qui ne devrait pas contredire, évidemment, l'interprétation littérale. Après tous ces préambules, au bas de l'autel, ceci étant, nous avons relevé 7 facteurs qui ont, nous semble-t-il, favorisé la croissance de l'Église. Je vous propose 3 facteurs plutôt négatifs, 4 facteurs plutôt positifs, en priant que ça fera 7, oui. Je suis un littéraire plus ou moins pur, alors j'ai toujours peur de me tromper dans les chiffres. Hein. Alors, il y aurait 7 facteurs. 3 plutôt négatifs, 4 plutôt positifs. Dans le premier groupe, c'est-à-dire les 3 facteurs plutôt négatifs, il y aura quelque chose un peu de passif. Et dans le deuxième groupe, les quatre facteurs positifs, il y aura une mise en route, nous verrons. Alors je commence par les trois facteurs plutôt négatifs. Trois facteurs qui ne dépendent pas forcément de nous. Premièrement, premier facteur, le contexte socio-religieux. Il peut être un facteur de réveil. Il présente des aspects négatifs ou positifs. C'est comme ça. Il y a des époques où on a le sentiment d'une accélération de l'histoire. Des époques et des lieux où on a le sentiment d'une accélération de l'histoire. Et il y a des siècles où on a l'impression que l'histoire traîne des pieds. Hein? Il y a des siècles qui sont au pessimisme. A contrario, vous avez des périodes qui sont pleines d'énergie, qui sont pleines d'héroïsme. Par exemple, les 13e et 17e siècles sont des siècles de concorde. Par contre, les 11e et 16e siècles sont des siècles de crise, d'inquiétude, de recherche. Vous voyez, ça c'est le contexte socio-religieux. Évidemment, comme chrétien, on n'y peut pas grand-chose. On y peut quelque chose, mais pas toute chose. Le contexte socio-religieux. Et nous distinguerons d'abord le contexte général, ensuite le contexte plus spécifique à l'Église. Le contexte général. Alors ici, vous avez tout des tas de choses qui comptent. À titre d'exemple, je donnerai l'inventaire suivant. L'ébranlement des valeurs, le relâchement moral, la prospérité, le matérialisme, des circonstances graves comme la guerre et les épidémies, l'explosion démographique, l'exode rural et la création d'une classe nouvelle, par exemple la création de la classe ouvrière. Cela va être un facteur important dans le grand réveil anglo-saxon du XVIIIe siècle. La grande insécurité, le scientisme, les grandes découvertes, le rôle de l'imprimerie, à la fois comme facteur et moyen, évidemment, pour la réformation du XVIe siècle. Le développement du nationalisme, par exemple du patriotisme, tel qu'on le voit apparaître, par exemple, au début du XVe siècle. Vous voyez, c'est le contexte général. Vous avez ensuite le contexte spécifique à l'Église. La cause chrétienne majeure déclenchant le renouveau est souvent l'indifférence religieuse et la conscience du jugement de Dieu sur l'Église. Mais ça peut être aussi le sentiment de la gravité de la situation de l'Église. Les communautés qui perdent leur substance, qui se rétrécissent comme des peaux de chagrin. La prédication qui devient froide et distante. La vie ecclésiale introvertie, négligeant totalement, par exemple, les besoins issus de l'industrialisation forcenée d'un pays comme l'Angleterre du XVIIIe siècle. La détresse morale, où la loi de Dieu n'est plus proclamée. L'effondrement de la confession de foi, en principe ou en fait. L'Église s'enfonçant dans le délire pour dire presque n'importe quoi. Par exemple, au XVIe siècle, la détresse d'une Église sclérosée, mettant, il faut quand même le faire, entre les mains de l'homme, la possibilité même du salut que donne Dieu. C'est le premier facteur plutôt négatif, le contexte socio-religieux. Deuxième facteur de réveil, c'est la persécution. L'Église s'est implantée progressivement, souvent dans la souffrance et le sang. Une ère de lutte s'ouvre qui va durer à l'origine de l'Église primitive deux siècles et demi de persécution. Et pour la France, Ce sera par exemple les martyrs de Lyon sous Marc Aurèle. En 177, le diacre de Vienne, Sanctus, la toute jeune esclave Blandine, Attal, le médecin Alexandre et le pasteur Potin. Potin qui a plus de 90 ans. Et ce sont ces témoins, ces martyrs qui sont là, témoins du Christ jusque dans la mort. Les pères apologètes, les pères qui font l'apologie, la défense de la foi chrétienne, sont appelés à défendre cette jeune foi, à défendre ce christianisme à l'heure où il doit rendre témoignage dans le cadre d'un monde païen, persécuteur de l'Église. Et vous aurez parmi ces pères notre voisin, presque Irénée de Lyon. Les persécutions dirigées contre les chrétiens ou les doctrines chrétiennes ont eu pour effet, et c'est le paradoxe, la plupart du temps, d'étendre plutôt que de supprimer la prédication et les vérités du christianisme. Et vous connaissez la grande formule de Tertullien, le sang des martyrs est une semence pour l'Église. Ce sont aussi les persécutions des églises protestantes au XVIe siècle, après la grande épreuve aussi de 1685, où l'Église va se réfugier dans ce que l'on appelle le désert, dans la clandestinité, et qui va payer pour sa fidélité un lourd tribut de souffrance et de mort. Les hommes, surpris participant à une assemblée évangélique, sont envoyés aux galères, les femmes en prison, les enfants au couvent. Et c'est aussi la saga de l'épopée camisarde qui a ensanglanté les Cévennes de 1702 à 1704, avec des prolongements jusqu'en 1709. Voyez, c'est le second facteur plutôt négatif, c'est la persécution. Troisième facteur plutôt négatif, l'hérésie. Parce que face à l'hérésie, vous aurez le réveil de la foi. La poussée de l'hérésie a, et c'est souvent le paradoxe, servi l'Église. Au moment les plus critiques, Dieu a suscité des hommes éclairés par son esprit, par sa parole, pour dénoncer le mal et ramener une partie de l'Église, sinon sa totalité, dans le chemin de l'obéissance à sa volonté. Paradoxalement, nous devons à des conflits d'opinion qui ont souvent brisé la paix et mis en danger l'unité de l'Église du Christ, l'établissement complet, le développement satisfaisant d'importantes vérités scripturaires qui étaient auparavant soit perverties ou renié, soit reçu formellement et nominalement, soit partiellement comprise et exprimée infidèlement. Les dogmes, les doctrines, sont le fruit de la réflexion de l'Église, souvent occasionnée et intensifiée par la controverse théologique ou bien par la poussée carrément de l'hérésie. Et les doctrines majeures sont toutes passées au creuset de l'hérésie. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Pour en sortir avec un contenu plus exact, plus fidèle, avec une coupe, avec un contour plus défini, donnant plus de netteté au tranchant de la vérité. Par exemple, le drame arien des 4e et 5e siècles avec l'urgence dramatique de la question Jésus-Christ est-il oui ou non Dieu ou créature. Voilà les trois facteurs plutôt négatifs. J'en viens aux quatre facteurs positifs. Ces facteurs sont d'abord, premier facteur, le retour à la parole de Dieu. Premier facteur positif, le retour à la parole de Dieu. C'est le besoin ardent de remonter à la source, de ramener l'Église telle une forme déviée à son patron. Hein, c'est le coup du chapeau déformé qu'on remet sur la forme pour reprendre sa forme. Des chrétiens reçoivent à nouveau l'Écriture sainte comme parole inspirée de Dieu. Être sauvé jusqu'en la chair de sa vie par cette prédication, cette adresse au cœur profond de l'homme de la parole de Dieu, reçue comme parole de vérité, comme parole de jugement, comme parole de grâce. Lorsque le bruit du siècle couvre la voix de l'Évangile, où à force de censurer sa parole, on a fini par bâillonner la parole, un homme ou une femme se lève et dit « Dominus dixit, le Seigneur a parlé ». Et ne pas alors écouter cet homme, cette femme, ce serait oublier le ciel pour ce monde et Dieu pour l'homme. Voici que viennent des jours, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine sur le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu, évidemment, Amos 8, c'est le premier point, le retour à la parole de Dieu. Voilà un facteur, évidemment, essentiel de renouveau dans l'histoire de l'Église. Deuxième facteur, mais il y en a peut-être d'autres que vous voyez déjà, que vous verrez et que vous annoncerez après dans la discussion, c'est la rénovation de la prédication. C'est lorsque quelqu'un prononce les paroles que tant d'autres ont besoin d'entendre. François d'Assise et sa prédication du désintéressement. Aussi la ville de Florence, qui est bouleversée de fond en comble par la prédication de Jérôme Savonarole. C'est la prédication qui va devenir à certaines époques vraiment capitale. Par exemple, avec un Bernardin de Sienne au XIIIe siècle. Bernardin de Sienne, 1380-1444, qui disait, osant mettre en opposition la prédication ou la messe, « Il vaut mieux 10 ans de prédication sans messe que 10 ans de messe sans prédication. » Et le calvinisme a été préparé par le renouvellement de la prédication, bien avant lui-même. Le XVe siècle voit se fonder des chaires de prédication séculières dans les grandes villes, et les réformateurs sauront se servir de cette opportunité, et vous retrouvez ceci évidemment dans les réveils piétistes de l'histoire de l'Église moderne, qui manifestent aussi le souci d'une prédication moins formaliste, plus réelle. Hein? C'est le second facteur positif, la rénovation de la prédication. Vous suivez quand même, là, en gros, hein, vous n'êtes pas... Vous connaissez ma formule, êtes-vous toujours saint de corps et d'esprit, hein, parce qu'il faut que tout le monde suive jusqu'à la fin, hein. Il faut s'accrocher encore à son fauteuil cosmique, et puis tout a une fin en ce bas monde, hein, nous arriverons jusqu'au bout. Alors, troisième point, la consécration individuelle. Troisième facteur positif, la consécration individuelle. C'est le personnalisme du réveil. La réforme dans l'Église est souvent le fruit d'une conversion. C'est le renouveau ecclésial au travers d'un homme vivant l'Évangile personnellement. Lorsqu'un homme ou une femme donne sa vie au Christ vivant, il peut y avoir un grand impact sur la vie de l'Église. Et l'Église semble alors se focaliser jusqu'à prendre un visage, celui de quelqu'un qui prie, et c'est sur le visage duquel il y a là comme buriné le grand amour du Christ ressuscité. Et grâce à cet homme ou à cette femme de prière, il y a tout un mouvement qui peut commencer. Tout se passe comme si la fidélité du peuple de Dieu se focalise, ne subsiste quelquefois dans l'histoire que quasiment dans un seul cœur. Et c'est l'apparition de l'homme providentiel ou prophétique, comme Valdo, comme qui vous voulez, Wycliffe, Luther. Ah, Luther qui est tout à la fois caisse de résonance des problèmes de son temps et qui est aussi le détonateur. Il y a là des consécrations individuelles qui déclenchent des réveils dans l'histoire. Ce sont des hommes, des femmes saisis par la grâce de Dieu qui, consacrés à son service, font naître des renouveaux. Et vous avez même certains de ces hommes qui prennent même une envergure internationale. C'est Luther, c'est Calvin, c'est aussi au XVIIIe siècle, Whitefield, Wesley. Avec Whitefield et Wesley, vous avez le réveil qui dépasse même l'Église. Car il se situe au départ de l'ère moderne caractérisée par la fin de l'équation Église égale peuple. Le réveil, quelquefois, fait tache d'huile. Un réveil en cache un autre, vous voyez l'affaire. Un réveil en appelle un autre, ou d'autres même, par ricochet. Et après Whitefield et Wesley, ce sont les réveils du XIXe siècle, en réaction au rationalisme triomphant de la bourgeoisie possédante. Le réveil prend alors le visage de Spurgeon, de Moody dans le monde anglo-saxon, de Jean-Frédéric Oberlin, de Félix Neff, d'Adolphe Monod, César Malan, en pays francophone. Et il nous reste à examiner le quatrième et dernier point, le redressement doctrinal. Le redressement doctrinal est facteur de renouveau. C'est par exemple en Orient ancien le combat d'Athanase au IVe siècle qui a été l'adversaire inflexible des Ariens. Athanase, le champion de l'orthodoxie qui a perçu très clairement l'enjeu doctrinal qui agitait les églises. Pour cet athlète de la vérité, c'est le surnom d'Athanase que lui donne Grégoire de Nazianze, pour cet athlète de la vérité, il paraît évident que saper le dogme de la divinité du Fils ou celui du Saint-Esprit, c'est ruiner les fondements même du christianisme. Et le danger qui menaçait l'Église n'était pas du tout illusoire. Jérôme, Saint Jérôme, c'est pas commode, vous savez, pas commode, Jérôme. Pourtant, Jérôme dit, tout l'univers gémit et s'étonne de se voir arien. Vous voyez, c'est l'arianisme absolument généralisé. Et dans ce contexte, jamais la foi d'Athanase n'a vacillé. Avec une inébranlable conviction, il a confessé le mystère trinitaire. Ça ne veut pas dire que tout est terminé, ça ne veut pas dire que la réflexion sur la Trinité est exhaustive et la théologie trinitaire gagnera en précision grâce aux Cappadociens. Mais en tout cas, l'évêque d'Alexandrie, Athanase, en a posé les bases. et Athanase lui-même auraient pu se croire seuls. Mais vous avez Antoine, le père des moines du désert, qui se sont... Vous avez, c'est extraordinaire, vous avez ces moines qui ont quitté Alexandrie, la ville pécheresse, pour aller se réfugier dans le désert, qui comprennent dans la prière, des moines complètement analphabètes, ils comprennent dans la prière que si Monsieur Arius a raison, à ce moment-là, il prie pour rien. Alors, ils se mettent derrière Antoine et ils reviennent vers la ville pécheresse d'Alexandrie pour mener le combat contre l'arianisme. Des gens qui comprennent, des gens simples qui comprennent que si M. Arius a raison, alors la vie n'a pas de sens. Et ce même redressement doctrinal devra se vivre en Occident avec un personnage de grande envergure qui est à nous, qui nous appartient. Hein. C'est Hilaire. Hilaire de Poitiers, 315-367. Hilaire, pasteur de Poitiers, un petit aristocrate, tout fin, tout coucoulou, tout cultivé, fin théologien, bon écrivain, qui va combattre contre l'arianisme et qui va mettre, qui va vraiment faire ce qu'a fait Athanase en Orient. Et pour cause de résistance à l'arianisme officiel de l'empereur Constance, Hilaire de Poitiers est exilé 4 ans en Asie mineure. Et pourtant, très très avare de compliments, Jérôme vantera l'éclat, je le cite, de la confession de foi d'Hilaire, le zèle de sa vie, la vigueur de son éloquence qui brille à travers tout l'Empire romain. Et, faut-il le rappeler, ici, tous les réformateurs, j'entends les réformateurs de la Réformation avec un grand R, ont été des dogmaticiens. On pourrait appliquer à tous les réformateurs du XVIe siècle ce que l'historien, pourtant agnostique, Lucien Febvre, disait à propos de Guillaume Farel. Lucien Febvre dit ce que Guillaume Farel reprocher aux prêtres de son temps, ce n'était pas de mal vivre, c'était de mal croire. Il ne faut pas ramener la réforme du XVIe siècle à une réaction par rapport aux abus uniquement moraux des personnages de l'Église. Et on ramène trop souvent la réforme du XVIe siècle à une réaction dans les manuels d'école face à l'immoralité des prêtres. La réforme n'est pas avant tout une protestation face à une affaire, j'allais dire, de jupons, mais c'est un retour à la parole de Dieu, à la saine doctrine. On peut dire ce que tous les réformateurs reprochaient aux prêtres de leur temps, ce n'était pas de mal vivre, c'était de mal croire. Et j'en arrive à la conclusion. Une expérience sur 2 millénaires, bimillénaires des chrétiens, dans le meilleur et dans le pire, montre que de tous les coups qui l'ont frappé, l'Église est ressortie raffermie. Et l'Église d'aujourd'hui traverse, nous le savons, certes, dans notre pays, une crise profonde. Elle est tentée, d'un côté, peut-être par certaines formes de sectarisme, par des repliements piétistes, par des divisions. Cette Église doit faire face, de l'autre, aux doctrines qui veulent soumettre la Sainte Écriture, parole de Dieu, au jugement humain. Ce n'est plus l'homme qui se soumet à la parole, c'est la Bible qui est passée au crible de la raison des hommes. L'homme décide dans l'Écriture ce qui est légitimement, dit-il, de Dieu et ce qui est de l'homme. Et on est loin ici de saint Augustin qui disait ce que la Bible dit, Dieu le dit. Nous devons tenir à ce que l'Église de France soit ouverte, soit préoccupée par le rayonnement de la foi dans la cité, et pourquoi pas, dans la pensée contemporaine. Grâce à la souveraineté de Dieu, tout est important. Nous devons aussi tenir en même temps à ce que l'Église soit fidèle à la souveraine parole de Dieu. Cette Église de France, baptisée par trois fois au moins du sang des martyrs au deuxième et troisième siècle, au XVIe et au XVIIIe siècle, et oserais-je le rappeler, à la Révolution française, cette Église baptisée au moins par trois fois dans le sang des martyrs, cette Église illustrée par Irénée de Lyon, Hilaire de Poitiers, Calvin, Farel, Bèze, Monod, cette Église nous est confiée. Sans doute, la crise que nous traversons est-elle profonde? Néanmoins, elle peut être, s'il plaît à Dieu, féconde, et que Dieu nous soit en aide.